Voilà, et donc pour toi, perle de prix. Et donc ce matin, on a beaucoup de perles, mais il y a une perle qui fête son anniversaire, et donc Odile. Donc on va chanter, joyeux anniversaire pour Odile.
J'ai débranché quoi.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Odile. Joyeux anniversaire. Oh! Perle de prix. Donc on va remercier Dieu pour l'offrande. Hein? Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. Toutes choses vient de toi, et c'est de toi que nous te rendons, Seigneur. Et donc, merci, Seigneur. Donne-nous la sagesse pour bien utiliser tout ça. Merci, Seigneur. Et donc, la vision, hein, si on veut utiliser de l'argent et nos ressources humaines, c'est pour la vision d'aimer, libérer, guider et envoyer aussi. Et donc, on fait un petit envoi aujourd'hui, on n'a pas le monopole de cet envoi, mais j'aimerais appeler David et Stéphanie à venir devant. Hein? Je les connais un peu. Hein? Je me rappelle quand David était un petit bébé entre mes bras. Je le prenais comme ça et je dis un jour, je vais lui parler. Il a grandi depuis. Mais David et Stéphanie vont partir en Zambie. Ils vont travailler dans une école là-bas. Donc, je ne sais pas si vous voulez juste nous dire deux ou trois mots sur ce que vous allez faire, et après, on va prier pour vous.
Très bien. Bah, tout d'abord, bonjour à tous. C'est sympa d'être là. Ça fait 2 ans quasiment que j'étais venu. Hein. J'étais venu, c'était il y a 2 ans. Et, non, même 3 ans, je crois, parce que c'était il y a 3 ans, parce que c'était là, c'était la première fois que j'ai annoncé à mes parents que j'avais une petite amie. J'annonçais à mes parents que j'avais une petite amie. Et que j'étais à 99,9 sûr que c'était la bonne. Et ça, c'était bien, ça. Ah, puis aussi, on voudrait aussi profiter de ce moment aussi pour vous remercier de votre générosité, à vous tous qui nous avez fait un joli cadeau, des jolis cadeaux pour notre mariage l'année dernière déjà. On est très reconnaissants, puis on vous remercie. On vous remercie de ça. Et donc, ouais. Mon dad m'a demandé de partager un peu sur où on en était dans notre vie. La dernière fois, vous aviez prié pour moi, pour mon temps à Taranoff, que ça puisse bien se passer, rempli de fruits, et ça a été le cas. On a, je dis, parce que Stéphanie m'a joint dans le ministère à Taranoff ces derniers mois, et on a bien terminé en Autriche, on a bien travaillé aussi avec l'église là-bas. Et depuis qu'on s'est rencontrés avec Stéphanie, on sait que on a sur le cœur que Dieu veut nous utiliser ensemble dans le ministère. Et on voulait travailler ensemble dans le ministère. Et en Autriche, c'était déjà un premier pas pour nous de se rapprocher de ça. Et on sentait cette année, en janvier, que ce ne serait pas en Autriche que ça se passerait. Donc on a commencé à chercher, à prier, puis à regarder un peu autour de nous, à contacter les gens, le network que nous avions, pour voir dans quelle mesure nous pouvions servir le Seigneur ensemble. Et au travers de ces quelques mois de recherche, on a finalement trouvé cette opportunité en Zambie, qui n'était pas sur notre liste, mais jamais grand chose n'est sur la liste, sur nos listes quand ça vient à obéir le Seigneur. Donc, c'était vraiment, ouais, une réponse à nos prières de travailler ensemble et d'être main dans la main dans un ministère. Et donc, nous allons nous joindre à l'école de Tchengelo. C'est une école de 370 étudiants en Zambie. Cette école a été créée dans les années 60 par une communauté chrétienne, une église qui avait à cœur d'offrir un enseignement, okay, une éducation aux jeunes de Zambie, mais avec la vision que ce serait pour être des témoins de la lumière, okay? As witnesses to the light. C'est leur motto, c'est comme ça qu'on dit en français, motto. Et vraiment, c'est ce qui nous a vraiment décidé à suivre cette voie, parce que Ouais, on va être engagé. Moi, personnellement, je serai dans le centre d'activité plein air donc, qu'il possède, et faire un peu tout le travail pédagogique avec les étudiants de primaire et secondaire. Et Stéphanie va travailler plus avec, dans le cadre de l'école, en faisant du discipulat et en organisant des activités extrascolaires. Mais toutes ces choses sont faites avec la vision que tous ces étudiants, ces jeunes personnes de Zambie puissent devenir des témoins de la lumière, des témoins de Jésus-Christ. Et, ouais, on est très encouragés par ça. Tous ces jeunes gens sont des gens qui sont enfants de ministres, qui sont enfants d'industriels, des gens plutôt aisés, donc c'est des expatriés. Et ce sont des gens qui sûrement dans le futur seront les futurs leaders de Zambie, des futurs cadres de la Zambie. Donc si dès le jeune âge ils peuvent rencontrer qui est Jésus et comprendre qui il est pour eux, c'est vraiment une super opportunité. On est vraiment excités à l'idée de faire partie de ce ministère. Donc où nous en sommes, nous avons fait toutes nos piqûres, nous sommes prêts. On a réussi, on a survécu ce temps de piqûre, surtout Stéphanie qui déteste ça. C'est la seule fois qu'elle m'a autorisé à l'immobiliser sans pouvoir bouger. Et nous avons fait tous les papiers, nous avons eu non, pas les visas. Pas encore ça, non, pas encore.
Les interviews ?
Les entretiens. Et on a vraiment eu un bon contact avec les personnes de l'école. Donc nous sommes tous prêts à rentrer dans cette étape et maintenant nous attendons juste la réponse pour nos permis de travail
du gouvernement.
Et ça c'est la chose en Afrique qui peut prendre plus ou moins de temps. Donc là on est dans cette période où chaque jour on se lève et on regarde à la boîte email pour avoir cette réponse. Donc notre patience est bien testée en ce moment, mais on a la réassurance que Dieu veut que nous soyons là-bas. Donc on pense que ça va bien se passer. Mais on peut quand même prier que ça puisse se passer sans trop de problèmes et que tous les papiers qui sont nécessaires soient là. Et voilà. Donc, ouais, on devrait commencer le 1er septembre sur papier, c'est ce qu'on a organisé. 1er septembre, on commencera à travailler à l'école et dans le centre. Et nous serions engagés là-bas pour une période de 2 ans, initialement. Donc, ce serait un peu une fondation, un début. Pour nous d'évaluer si c'est là-bas qu'on veut être à long terme ou pas. Donc c'est ça.
Il a déjà tout dit. Hein. Non, on est vraiment reconnaissant de pouvoir être là et de toutes vos prières aussi. Je veux dire, c'est ça qui est, c'est sympa de voir de la famille. On a de la famille un peu de partout dans le monde. Et ici, il y a des gens qui prient pour nous, qui nous encouragent. Et ça, c'est toujours ça nous motive à continuer d'aller, vraiment. Merci pour ça.
Voilà, donc restez ici. Donc si le conseil de l'église peut venir, on va prier, et même les gens, hein, vous pouvez mettre vos mains comme ça et prier. Hein. C'est jusqu'à présent, peut-être c'est votre seul envoi que vous allez avoir d'une église, peut-être.
Non, on a eu
à Tawanoff, oui. Donc on joue un petit rôle d'envoi.
Wow. Ouais. Merci. Awesome. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, en Acte 13, il dit « Mettez-moi à part ». Et ils avaient des deux personnes pour l'œuvre du Seigneur. Et ce matin, Seigneur, avec ton Église, avec un grand deux, nous mettons à part David et Stéphanie pour l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Donc nous imposons des mains et nous les envoyons, pas avec nos propres forces, mais avec la force du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Et envoyés avec la puissance et l'assurance du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre, pas d'un homme, mais l'œuvre de Dieu sur place, pour transformer et changer les vies là-bas. Amen. Pour être protégés, bénis, encouragés, rempli d'une ferveur pour la prière, pour la parole, et pour partager la vie de Jésus.
Amen.
Merci.
Amen. Amen. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles.
Amen.
Qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Merci. Béni sois-tu, Seigneur, merci pour David et pour Stéphanie. Seigneur, merci. Merci de les envoyer. Merci de les envoyer pour proclamer ta parole, pour porter du bon fruit, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les remplir du feu de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour qu'ils puissent porter ton message, ta paix, ton amour à toutes ces personnes qui seront sur leur chemin. Seigneur, vraiment, que ta lumière soit sur ce couple, Seigneur, sur David et sur Stéphanie. Bénis-les dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen.
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 Amen. Amen. Amen. Alors moi, je te prie pour que tout se libère, pour voir les papiers.
Merci pour la disponibilité de David et Stéphanie. Merci pour leur fraîcheur, leur joie. Préserve cette joie, cette fraîcheur, Seigneur. Et que leur vie soit une démonstration de la grâce de Dieu. Qu'ils soient un témoignage puissant de la grâce de Dieu. Voilà, qu'ils se souviennent qu'ils vivent par ta grâce. Ils dépendent de ta grâce. Ils se relèveront toujours par ta grâce. Cette fois, le jour tombe. Cette fois, ils se relèvent. Qu'ils s'en souviennent. Seigneur, voilà, qu'ils soient habités par la grâce de Dieu. Louange, qu'ils soient un témoin de cette grâce auprès de tous ces étudiants, auprès de tous ces futurs leaders.
Amen.
Oui, Seigneur, merci pour l'obéissance de tes enfants. Que cette obéissance les emmène toujours plus loin près de ton cœur et qu'au travers de toi, qu'ils puissent accomplir de grandes choses pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci de mettre cette protection autour d'eux de tout ce qu'ils entreprendront, comme on l'a vu dans les âges, tu les gardes lorsqu'ils traverseront les feux, lorsqu'ils traverseront les rivières, Seigneur, lorsqu'il y aura des choses plus difficiles, tu seras toujours à leur côté, parce qu'ils sont aimés de toi, ils sont précieux à tes yeux, tu vas les garder, les protéger, dans cette confiance, Seigneur, que dans cet endroit, tu vas pouvoir tous leurs besoins, quels qu'ils soient. Donc, je bénis en ton nom, je vous en remercie, Seigneur, pour ces ouvriers qui viennent entrer dans le champ,
Seigneur. Amen. Que David et Stéphanie soient bénis et soient envoyés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Shalom.
Alléluia. Donc il y a très très longtemps, même des milliers d'années, il y avait un vieux grec qui s'appelait Hésiode, et il écrivait des mythologies. Et lui, il parle d'un dieu, Zeus, qui décidait un jour de créer une femme pour punir l'humanité. Hein, c'est pas très gentil. Hein. C'est le début de la misogynie dans l'histoire. Et donc, il crée cette femme de l'eau et de l'argile, et il la forme, il la façonne, et il l'appelle Pandore. Je pense que vous avez entendu parler de Pandore. Et Pandore, elle est éduquée. Et donc, il y a Hera, la déesse Hera, hein, qui l'enseigne la jalousie. Et après, il y a Hermès, qui lui enseigne la curiosité. Et donc, elle est envoyée pour se marier avec le frère de Prométhée, qui avait volé le feu pour donner le feu à l'humanité. Mais ce n'était pas un cadeau, hein. Un cadeau un peu empoisonné, parce que cette dame Pandore, elle a porté une boîte avec elle. Une boîte. Et on lui avait dit, il ne faut jamais ouvrir cette boîte, parce que dans cette boîte, il y a de très mauvaises choses. Mais elle avait la curiosité. Et un jour, elle décide de l'ouvrir. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, et ben voilà, il y a toutes les mauvaises choses, les bestioles, des démons, la vieillesse, la maladie, l'accident, les tortures, toutes les mauvaises choses qui sortent de cette boîte et qui remplissent l'humanité de maux et de misère et de pleurs et de larmes. Bien sûr, ce n'est qu'une mythologie, pas la vérité. Mais c'est une image. Pour expliquer, les gens ont toujours essayé d'expliquer le mal dans le monde. Et on dit, il ne faut jamais ouvrir la boîte de Pandore. C'est une phrase qui est dans notre langage.
Mais il y avait toutes ces choses horribles qui sont sorties. Il y avait un tout petit être qui restait dans la boîte. Et avant que cet petit être sorte, on l'a fermé, on a renfermé la boîte. Mais c'était une erreur. Parce que tu savais comment il s'appelait celui qui restait dans la boîte, enfermé. Voilà, il s'appelait Espoir. Et donc, devant tous les fléaux du mal, on a enfermé l'espoir. Et donc, ce matin, on va libérer l'espoir. Parce qu'on voit très bien tous les maux, mais on voit rarement l'espérance. Et donc, ce matin, j'aimerais libérer un peu l'espérance. Mais vous savez, l'espérance n'est pas facile à libérer. Il y a un long chemin pour libérer l'espérance dans le cœur. Et ce n'est pas comme un café instantané. Voilà, je me lève rempli d'espérance, tous les jours. Et surtout aujourd'hui, quand on a tellement de mauvaises nouvelles autour de nous, on voit que quelqu'un a bien ouvert cette boîte de Pandore. Et tous ces trucs qui sont là, qui volent, qui nous piquent et tout ça. Mais voilà, l'espérance, comment trouver l'espérance. Il y a un chemin à prendre et on va rester dans Romains aujourd'hui, hein, l'épître de Romains. Et si vous regardez surtout en Romains chapitre 5, et on va commencer avec le verset 3, parce que c'est le chemin vers l'espérance. Il y a les étapes pour arriver vers l'espérance. Et donc quand tout va bien dans nos vies, on n'a pas tellement besoin de l'espérance. Parce qu'on a déjà ce qu'on espère. Et donc, le chemin de l'espérance, ça commence souvent avec la souffrance. Et donc, si vous regardez en verset 3 de chapitre 5, il commence, Paul, il dit, « Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations. » Les tribulations. Je dis, mais moi, je ne veux pas quand même me glorifier dans les tribulations. C'est dur, la vie, les souffrances, les tribulations. Et il y a de grandes tribulations et de petites tribulations. Mais tout le monde, un jour dans leur vie, va commencer là. Qu'est-ce que c'est votre tribulation aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est votre tribulation? Mais ça ne s'arrête pas à la tribulation, parce qu'il dit, après la tribulation produit quelque chose. La tribulation produit la persévérance. La persévérance. Quand vous êtes dans la difficulté, quand vous êtes dans la souffrance, quand les choses vont mal, il ne faut pas abandonner. Il faut persévérer. Quand c'est difficile, quelquefois j'ai fait des marathons dans ma vie. Et le plus dur, c'est la fin. C'est terrible, tu as envie de te coucher sur la route et d'arrêter. Mais non, tu fais encore un pas, encore un pas, encore un pas. Et tu persévères. Et dans la vie, il faut persévérer. Tout le monde sait ça. Mais quelquefois, on a besoin de l'aide. Et il faut persévérer. Parce qu'après la persévérance produit une fidélité éprouvée, une endurance, un caractère. Ça forge quelque chose en nous. Ça forge le caractère d'un homme, d'une femme. On pèse quelque chose. On n'est pas juste... On a persévéré. Et on a accompli quelque chose. On a une fidélité éprouvée. Et après, ça devient intéressant. Parce que le caractère, la fidélité éprouvée produit l'espérance. Ça vient du cœur. La fidélité sort de la fournaise de l'épreuve. Et donc, il y a les gens qui ont un caractère qui les pousse à l'espérance. Et il y a d'autres gens qui sont plus légers, je dirais. Et ils n'ont pas forgé leur caractère. Ils ont trop d'abandon. Et donc là, ça pousse vers la déprime. Et donc nous, avec Jésus-Christ, il nous encourage à avoir cette fidélité éprouvée qui va produire l'espérance dans nos cœurs. Et après, ça devient très intéressant. Parce que, en verset 5, et c'est peut-être le verset clé pour aujourd'hui, il dit, « Oh, l'espérance ne trompe pas. » En anglais, on dit « l'espérance ne déçoit pas ». Tu ne vas pas être trompé. Ça, c'est une valeur sûre, l'espérance. C'est une valeur sûre.
Or, l'espérance ne trempe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Une fois dans ma vie, j'étais devant une grande épreuve. Je me décourageais. Et j'ai trouvé, je dirais, au travers de la persévérance, au travers d'une prière, j'ai trouvé quelque chose qui était un peu de fidélité éprouvée dans mon cœur. Et j'ai prié au secours, aussi simple que ça. Et c'était une prière d'espérance au secours, parce qu'on s'attend à quelqu'un qui va venir nous aider. J'ai de l'espérance en Jésus. J'ai une espérance au-delà de la mort, au-delà de la maladie, au-delà des mauvais coups. J'ai une espérance. Et j'ai crié au secours, et vague après vague, d'esprit commence à remplir mon cœur. Je me rappelle de ce jour-là. C'était un jour qui m'avait transformé. Et mon cœur, comme ici, l'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Et le Saint-Esprit nous donne, avec cette, quand on met un peu la part de l'espérance, ça va aller mieux. Après, le Saint-Esprit peut prendre ça et vous remplir de l'amour de Dieu. Et avec l'amour de Dieu, on est plus que vainqueur. Et donc, l'espérance. Et j'aime Abraham. Parce qu'Abraham, c'était un homme qui devait vivre dans l'épreuve. Il était stérile. Et il marchait dans le désert avec sa femme Sarah. Et ils avaient essayé pendant des années, des années, des années. Et il avait une promesse. Abraham, tu vas multiplier, tu vas être père d'une multitude de nations. Mais ça ne venait pas. Et il restait seul. Et il a dû avoir des moments de découragement. Mais il a su garder l'espérance. Et là, on voit ça en Romains 4. Et Romains 4, 18. Si je devais résumer dans un ou deux versets mon expérience dans le ministère, ça sera ici. C'est mon ministère en France et dans d'autres nations pendant 33 ans. Je dirais, je me trouve à la maison dans ces versets. Je trouve mon expérience de ministère ici. Et donc, je vais lire. Hein, c'est Romains 4, 18. Et donc, lui, il commence espérant contre toute espérance. Et il y a les moments dans la vie où ça ne va pas comme on veut. Vous persévérez. Et lui, j'aime bien cette phrase, espérant contre toute espérance. Il y a les gens qui vont vous dire, c'est fichu, c'est fini. Faut arrêter. Pff, à quoi bon? Espérant contre toute espérance. Et après, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations. Donc là, il y a quelquefois un énorme écart entre la petitesse de ta situation et même, je dirais, ta situation presque ridicule, toi, là, et la promesse de Dieu qui dit, Abraham, tu vas être père d'une foule de nations. Et donc lui, il est là, stérile. Et il y a comme une distance impossible à franchir. Dieu se glorifie de telle distance. Même dans ta propre vie, tu peux dire, mais je suis rien, Seigneur. Je suis rien, et même le peu que j'ai, je gère mal. Comment est-ce que je vais accomplir les promesses que tu mets dans ta parole devant mes yeux? Mais Dieu existe dans cette distance. Il y a le miracle de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Ça a toujours été comme ça pour l'Église. Un petit groupe de 12 disciples, espérant contre toute espérance. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Mais c'est une folie. Mais ils ont persévéré. Ils ont gardé leur espérance, espérant contre toute espérance. Ils ont cru et ils sont devenus. Alors je veux vous dire très pratiquement ce matin, croire et devenir. Croire et devenir, ça c'est la vie du disciple. Croire à ses promesses. Il faut croire. Il ne faut pas dire,
beau. Non, non, crois. Ce que Dieu t'a dit, il va accomplir. Il va l'accomplir. Et même collectivement, pour nous en tant qu'Église, croyons ensemble pour devenir ensemble. Croyons ensemble pour devenir ensemble. Il faut un contexte de foi pour découvrir sa vraie identité. Pour devenir quelqu'un, il faut croire avant. Il a cru et il est ainsi devenu père. Il est devenu père d'une foule de nations. Et donc, accroche-toi à la foi. Accroche-toi à la parole que Dieu a mise dans ton cœur. Et tu vas être transformé, tu vas être changé par cette parole. Mais il faut persévérer. Espérant contre toute espérance. Il crut et devint père. Quelqu'un qui a produit le fruit. Il est devenu père d'une foule de nations. Et on peut dire ça c'est bien beau, mais voilà, il faut être réel. Il faut être réel. Et donc là, Abraham, il était bien réel. Il dit, il considéra son corps. Tu sais, il a fait face à ses réalités. Il n'était pas sur la lune. Voilà, bon, ça va arriver. Il considéra sa situation. Il a fait face à ça. Et il dit, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Et là, tu as deux fois la mort, la mort, la mort. C'est la fin, les gens meurent, c'est fini. Et ça, c'est la réalité de ce monde. Il y a un attentat, les gens meurent. Et il y a la maladie, les gens meurent, et c'est fini. Et donc, mangeons, buvons, parce que demain, nous mourrons. Mais il y a au-delà de la mort une espérance, et c'est l'espérance de la résurrection. L'espérance que Jésus-Christ est vivant, qu'il a vaincu la mort. Et ça, c'est l'espérance que nous portons dans nos cœurs. C'est cette espérance qui nous transforme. Je crois à la résurrection. Et donc, je suis ainsi transformé. Et ce matin, crois dans ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité. Crois dans ton cœur que la mort n'a pas le dernier mot et tu seras transformé. Ta vie sera transformé. Le tombeau est vide. La mort n'a pas le dernier mot. Mais lui, il faut considérer, il faut être très réel. Et lui, il regardait autour de lui, Abraham. Il dit, mais regarde-moi. Il commence à me dire, regarde-moi. Et quelquefois, je peux le faire, mais Dieu, regarde-moi. Regarde-moi. Dieu dit, bravo, d'accord, je regarde ça. Et après, regarde le contexte. Ma femme, elle est stérile. Tu dis que je serai père. Moi, j'ai plus de 100 ans et ma femme est stérile. Et Dieu dit, d'accord, tu considères la réalité de ta situation. Mais verset 19 est magnifique. Et sans faiblir dans la foi. Il considéra sa situation. Mais sans faiblir dans la foi. C'est ça l'enjeu. Quelquefois, nous regardons avec nos yeux certaines circonstances, oh, c'est impossible, et notre foi est affaiblie. L'art de l'homme de Dieu, l'art du vrai chrétien engagé, c'est de voir avec ses yeux certaines réalités, mais de dire après Dieu est plus grand que ça. C'est pas d'ignorer la réalité, de fuir, non, il regarde, voilà, c'est comme ça. Et c'est même bien de dire, voilà, c'est exactement comme ça, j'ai pas d'argent, je suis malade. J'ai ça, tu constates. Mais après, mais j'ai aussi la foi. Et j'ai aussi l'espérance dans mon cœur. Je ne vais pas être vaincu par ces choses, mais je vais les regarder, je vais les confronter comme ça. Je ne vais pas fuir mes réalités. Sans faiblir dans la foi. Et après, verset 20. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité. Mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance d'accomplir. Alléluia. Vous voyez, la promesse était tellement forte dans le cœur d'Abraham. Et que les promesses de Dieu
soit forte dans votre cœur. Que vous persévérez dans ses promesses. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Ça fait 33 ans que je persévère dans les promesses du réveil. Je ne me décourage pas. Si j'étais au Château Blanc, je regardais pleinement nos dettes quelquefois, l'impossibilité de notre situation. On avait des équipes de 3, 2, 4 personnes. C'était impossible. Mais voilà, Seigneur, tu nous as placés ici, tu feras ton travail. Et j'ai jamais vu quelque chose qui a explosé, comme ça, bam, mais persévérant. Et Dieu fait le miracle. Quelquefois, il y a les résurrections, des réponses qui viennent, et ça vient comme la rosée sur l'herbe. On ne regarde pas, on ne remarque pas tellement, mais c'est là. Et je vous dis, c'est ce qu'on va vivre dans cette église. Je le sens. Quelquefois, je vois des chaises vides. On voit que, voilà, Seigneur. Mais on a eu la promesse. La marée va monter. Moi, je le crois. Et même l'autre jour qu'on a eu des témoignages ici, c'est pas dans mon cœur était rempli de foi. J'ai dit, mais Seigneur, l'effet domino que nous vivons déjà dans l'Église et ce que nous allons vivre. Et donc, je vous encourage de dire, voilà, Seigneur, nous persévérons ensemble. Avec cette espérance, avec cette victoire. Et pas juste pour notre Église, pour nos vies de famille. Et même pour la vie de la nation. Il faut les gens qui espèrent. Il faut les gens qui ont une parole d'espérance. Et ça, ce n'est pas une parole à l'eau de rose. On considère, voilà, on regarde, on fait face à toutes les difficultés. Mais Dieu est plus fort que tout cela. Le tombeau est vide. Il y a une espérance qui va au-delà de toute autre réalité. Et ça, c'est essentiellement être chrétien. C'est d'avoir cette espérance de résurrection dans le cœur. C'est pas d'être religieux. C'est pas juste d'assister aux messes ou aux cultes et tout ça. C'est d'avoir une foi claire et nette qui croit à la résurrection du Seigneur. Et ça, il faut l'espérance pour ça. Il faut prendre le train. Allez, Seigneur, aide-moi au travers de cette tribulation. Après fidélité éprouvée, après l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu, cette puissance d'amour est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous savez, le mot quand il dit « pleinement convaincu », ça veut dire qu'il a porté pleinement la responsabilité de la foi. Et je pense que chacun de nous, on doit porter pleinement la responsabilité de croire. Et voilà, je crois moi-même. Allez, je porte moi-même la responsabilité de croire. Alléluia. Donc voilà, on va espérer. On va quitter ce culte rempli d'espérance. On va ouvrir cette boîte de Pandore. On va aller à espérance. Allez, que tu sois libéré aussi. On va ouvrir la boîte de mon cœur pour que l'espérance soit libérée. Et je vous laisse avec une dernière promesse. Une dernière promesse par rapport à l'espérance. Et ça se trouve en Osée. Prophète Osée. Et chapitre 2, verset 17. Et c'est un temps où c'est difficile pour le peuple de Dieu et tout ça. Mais verset 17, il leur laisse une promesse. Et il fait une même promesse comme pour Abraham, une promesse de fécondité. Il dit, je vais vous redonner vos vignes. Et verset 17. De là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Et tu sais, cette vallée d'Achor, Achor, ça veut dire trouble, problème en hébreu. Et quelquefois, on est dans la vallée d'Achor. On est dans la vallée des problèmes. C'est difficile. On est dans la vallée. Mais Jésus est avec nous dans cette vallée. Et si nous persévérons dans la vallée, on va voir qu'il y a une porte ouverte. Cette porte ouverte, c'est Jésus-Christ qui est la porte. Et il donne une porte, il ouvre une porte d'espérance dans ta vie. Et donc ce matin, tout simplement, ouvre une porte d'espérance dans ton cœur. Pense à quelque chose qui te décourage le plus. Pas trop longtemps, mais faire face à cette chose. Dis-moi là, je suis vraiment cassé avec ça. Et peut-être il y a une chose, deux choses, trois choses. Mais là où il y a le truc qui te casse, ouvre la porte d'espérance ce matin. Tu peux méditer après le culte, médite ça cette semaine. Et dire, voilà Seigneur, je vais croire comme Abraham, même si c'est stupide, même s'il y a une distance énorme entre ma situation et ce que j'espère. Mais ce matin, j'ouvre une porte d'espérance dans mon cœur. Et vous allez voir, vous allez ouvrir cette porte déjà en ouvrant cette porte, vous allez sentir l'air frais. Vous allez errer cette situation. J'ai de l'espérance. Et c'est l'espérance de la résurrection, l'espérance de Jésus-Christ. Je crois et je deviens. J'ai cru, je suis devenu plus comme Jésus. Alléluia. Et donc, Seigneur, voilà, peut-être j'apprends un peu de Pascal. Si vous ouvrez ce matin une porte d'espérance dans votre cœur, s'il y a quelque, là où tu veux ouvrir une porte, juste lève la main là où vous êtes assis. On peut fermer les yeux et levez votre main ce matin. Lève ta main ce matin là, juste pour dire, voilà, je lève une porte, j'ouvre une porte d'espérance dans mon cœur ce matin pour telle et telle situation. Et après, je vais prier. Voilà, je vois des mains qui se lèvent ce matin. Voilà, c'est une action de foi là. Je vois ces mains qui se lèvent. Voilà. Voilà l'espérance qui entre dans des cœurs pour certaines circonstances. Voilà, Seigneur. Voilà, Seigneur, tu vois ces mains levées. Et ces mains levées, c'est comme des mains qui mettent leur main sur la porte et qui ouvrent une porte d'espérance. Seigneur, l'espérance pour la guérison. L'espérance pour la réconciliation. L'espérance pour toutes sortes de choses, Seigneur, des délivrances financières, Seigneur. Merci pour des espérances pour trouver des partenaires, Seigneur, dans la vie. Oh, Jésus, merci. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, ce matin, je te remercie. Seigneur, remplis mon cœur de nouveau d'espérance. Seigneur, j'ouvre mon cœur. Tu transformes ma vallée d'accord de trouble dans une porte d'espérance. Et cette espérance ne trempe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur ce matin par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Merci Seigneur, que ton espérance nous accompagne. Au nom de Jésus, Amen. Amen.